VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Michel Joseph. Au sommaire ce 15 avril 2016.
À Cotonou, des groupes de jeunes ont pris d'assaut jeudi la devanture du palais présidentiel pour contester la suspension des concours d'entrée à la fonction publique.
Cette décision nous semble arbitraire et populiste sur fond de règlement de compte politique.
Un avis non partagé par les syndicats.
Certains parmi ces candidats n'avaient même pas le diplôme requis pour composer et pourtant ils ont été déclarés admis.
Au Niger, le collectif d'opposition Résistance Citoyenne appelle à manifester le 24 avril pour contester la réélection du président Issoufou Mamadou.
Les États-Unis se sont dit très préoccupés par une offensive près d'Alep des forces syriennes soutenues par l'aviation russe.
Le président turc a appelé les dirigeants musulmans à surmonter leurs différends pour lutter contre le péril djihadiste.
Les démocrates américains Hillary Clinton et Bernie Sanders se sont retrouvés hier soir pour un débat tendu, 5 jours avant les élections primaires présidentielles de New York.
Et avant la Minute Éco et les sports, voici le journal.
Au Niger, des organisations de la société civile ont décidé de manifester le 24 avril pour, disent-elles, restaurer la démocratie, après ce qu'elles qualifient de mascarade d'élection présidentielle qui a vu la reconduction à la tête de l'État du président sortant Issoufou Mahamadou pour 5 ans. Le collectif Résistance Citoyenne a appelé dans une déclaration publique les Nigériens de toutes les villes à se mobiliser pour cette manifestation. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa a tendu son micro à Abdoulaye Oumarou, l'un des responsables de ce collectif.
Il a été constaté que tout au long du processus électoral, la loi a été violée, torturée ou carrément mise de côté lorsqu'elle n'a pas été superbement ignorée au mépris des règles élémentaires de droit. La démocratie nigérienne est avant tout notre bébé. Nous ne pouvons accepter, après tant de sacrifices consentis, pour l'avoir vu naître et tant de luttes menées, parfois au péril de notre liberté et de notre vie, qu'elle soit mise sous coupe réglée et qu'elle devienne la chose de quelques individus prêts à tout pour conserver le pouvoir et abusant de la démission et de l'irresponsabilité notoire de l'opposition politique, pourtant institution constitutionnelle de contre-pouvoir pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. C'est pourquoi le collectif Résistance Citoyenne décide de se battre contre la dictature en marche dans notre pays pour restaurer la démocratie et l'état de droit au Niger. Lance un vibrant appel à tous les Nigériens, à tous les citoyens nigériens attachés aux valeurs démocratiques chèrement acquises de haute lutte, de sortir massivement pour prendre part à la marche citoyenne pour la restauration de la démocratie qu'il organise le dimanche 24 avril 2016 sur l'ensemble du territoire national.
Les ambassadeurs de France, d'Espagne et du Royaume-Uni sont arrivés jeudi à Tripoli pour apporter le soutien au nouveau gouvernement d'Union nationale de Fayez al-Sarraj, 2 jours après la visite du chef de la diplomatie italienne. C'est la première visite de diplomates européens dans la capitale libyenne depuis la décision des pays de l'Union européenne d'y fermer leurs ambassades durant l'été 2014 à cause des combats.
Le président gambien Yahya Jammeh a nommé un nouveau président de la commission électorale indépendante après de 8 mois d'un scrutin présidentiel auquel il est candidat, indique l'AFP. Mustapha Karayol a été remplacé par Aliou Mohamar Jai. En Gambie, le président de la CEI est nommé par le chef de l'État. Il est toujours choisi parmi les membres de la commission électorale. En tant que nouveau chef de la CEI, Aliou Mohamar Njai aura à diriger l'organisation de la prochaine présidentielle, un scrutin à tour unique fixé au 1er décembre avant les législatives en avril 2017.
Le chef du Front Polisario, qui revendique l'indépendance du Sahara occidental, a averti jeudi l'ONU d'un risque de reprise des hostilités avec le Maroc si la mission des Nations Unies dans ce territoire ne pouvait pas assumer pleinement son mandat, rapporte l'AFP. Si le Conseil de sécurité n'exerce pas une pression réelle et directe sur le Maroc en permettant à la MINURSO de reprendre son travail et son mandat pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination, ce sera un feu vert à une agression militaire du Maroc contre les Sahraouis, a déclaré Mohamed Abdelaziz.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les démocrates américains Hillary Clinton et Bernie Sanders se sont retrouvés hier soir pour un débat tendu, 5 jours avant les élections primaires présidentielles de New York. Des détails avec Jean-Roger Bion.
But I do question her judgment.
Le sénateur du Vermont a affirmé d'entrée de jeu que Mme Clinton manquait du genre de jugement dont nous avons besoin pour être le genre de président dont nous avons besoin.
Il a rappelé qu'elle avait voté pour la guerre en Irak, pour des accords commerciaux désastreux et dénoncé le fait qu'un de ses comités d'action politique qui finance les campagnes ait reçu des millions de Wall Street.
Well, the people of New York voted for me twice to be their senator.
Les New Yorkais ont voté 2 fois pour que je sois leur sénatrice, a riposté Madame Clinton.
President Obama trusted my judgment enough to ask me to be Secretary of State.
Le président Obama a fait suffisamment confiance à mon jugement pour me demander d'être sa secrétaire d'État, a-t-elle ajouté, avant de rappeler que dans une récente interview, Monsieur Sanders avait eu du mal à répondre à des questions sur un objectif clé de son programme, le démantèlement des grandes banques et sur des points de politique étrangère. Les deux démocrates se sont affrontés notamment sur l'économie, le réchauffement climatique, l'université gratuite voulue par M. Sanders, l'assurance maladie, la politique étrangère et le contrôle des armes. Mme Clinton a critiqué M. Sanders qui est contre la possibilité pour des victimes de poursuivre les fabricants d'armes à feu, d'autant que jeudi, une juge a estimé que les familles des enfants de l'école de Sandy Hook dans le Connecticut, tués en 2012, avaient le droit de poursuivre le fabricant de l'arme impliquée.
Au sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul, le président Recep Tayyip Erdogan a appelé les dirigeants musulmans à surmonter les différences confessionnelles pour mieux lutter contre le péril djihadiste. Le point avec Idriss Fall.
Le centre d'Istanbul est quadrillé par plus de 5000 policiers. La 13e conférence de l'OCI rassemble les représentants de 56 pays, dont une trentaine de chefs d'État, devant ses hôtes, dont le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani. M. Erdogan a déclaré que sa religion n'est pas le sunnisme ou le chiisme et que les musulmans doivent s'unir pour faire face au terrorisme. Il a annoncé la création prochaine d'un centre pour la coopération des polices des pays de l'OCI, une sorte d'Interpol islamique basé à Istanbul pour coordonner la lutte antiterroriste. Le président turc a aussi déploré l'augmentation de l'islamophobie dans certains pays occidentaux qui, selon lui, parlent des attentats de Bruxelles et Paris, mais très peu des attentats d'Ankara ou de Lahore au Pakistan. La rencontre qui s'achève ce vendredi permet à la Turquie de sortir un peu de l'isolement. Le pays est brouillé avec l'Égypte depuis le renversement du président Mohamed Morsi. Ankara, qui combat ouvertement le régime de Damas, est également en froid avec Moscou.
Au moins 42 personnes sont mortes dans des intempéries en Arabie Saoudite et au Yémen ces derniers jours. Des détails avec John Linden.
Des pluies torrentielles se sont abattues sur le Yémen et l'Arabie Saoudite, qui sont pourtant deux pays au climat désertique. En Arabie Saoudite, 18 personnes ont péri dans des inondations. À Riyad, la capitale, les écoles ont été fermées mercredi. La circulation était sérieusement perturbée par une violente tempête. 2 personnes ont trouvé la mort à Jazan, région montagneuse du sud-ouest du pays. 6 autres ont été blessées près de la frontière avec le Yémen. Dans le nord du Yémen, 24 personnes ont péri mercredi dans ces intempéries. Dans la province d'Amran, au nord de Sanaa, 10 personnes ont été tuées. Plusieurs habitations ont été endommagées, des routes et des ponts ont été coupés par des crues. Dans la province de Hadja, au nord-ouest de Sanaa, 14 habitants ont été tués, dont certains suite à des éboulements.
La Corée du Nord a échoué dans sa tentative de tirer un missile vendredi matin pour marquer l'anniversaire de la naissance du fondateur du régime nord-coréen, ont annoncé l'armée sud-coréenne et un responsable américain de la défense. Le missile a été détecté et suivi par le centre de commande stratégique américain. Notre estimation est que le lancement a échoué, a précisé le responsable cité par l'AFP.
Plusieurs tremblements de terre de magnitude allant jusqu'à 6,5 ont fait au moins 9 morts et plusieurs centaines de blessés dans le sud-ouest du Japon, où se trouvent des réacteurs nucléaires indemnes selon les opérateurs. De nombreux secouristes s'affairaient vendredi matin au milieu des décombres à la recherche de survivants.
Les combats près d'Alep menacent le fragile cessez-le-feu en Syrie ainsi que la reprise des négociations de paix à Genève. Les États-Unis, qui ont initié avec Moscou cette trêve, se sont dit jeudi très préoccupés par une offensive près d'Alep des forces pro-gouvernementales soutenues par l'aviation russe. À Genève, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie a fait part de sa frustration au sujet des difficultés d'accès humanitaire dans le pays en guerre.
Le tribunal suprême fédéral brésilien a rejeté ce vendredi un recours du gouvernement demandant d'annuler la procédure de destitution contre la présidente Dilma Rousseff à 2 jours d'un vote crucial des députés. Cette décision a été adoptée par une majorité de 11 magistrats de la plus haute juridiction brésilienne dont les délibérations étaient retransmises en direct à la télévision.
L'économie en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco qui vous est présentée ce matin par Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Nathalie. Les titres de transport changent en Centrafrique, sont concernés par ce changement d'après l'agence APA News. Les permis de conduite, les plaques d'immatriculation, les autorisations de conduite et les cartes grises de véhicules. La RCA suit en la matière les prescriptions de la Convention de Vienne sur la circulation routière qui impose ce renouvellement tous les 10 ans. Les usagers concernés ont 6 mois pour se procurer de nouveaux documents. Pour la confection de nouveaux titres de transport, il faudra compter 30 000 francs CFA de thèmes fiscaux. En Côte d'Ivoire, le spécialiste local de l'alimentation pour bébés cherche à lever des fonds. Le groupe est parvenu à prendre des parts de marché à Nestlé ou Danone sur le segment des laits en poudre et de l'alimentation pour bébés et veut désormais lever 3 milliards de francs CFA, environ 4,5 millions d'euros, pour consolider son développement local et prospecter hors des frontières nationales. Au Sénégal, les prix des produits à l'importation ont enregistré une baisse de 1,3% en février 2016 comparé au mois précédent, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Quant au prix des produits à l'exportation, ils se sont repliés de 4,4% en février 2016, comparé à ceux du mois précédent.
Merci Jean-Roger pour cette page économie. À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nathalie.
Europa League, quart de finale, retour ce soir.
Le Shakhtar Donetsk a écrasé le Sporting de Braga 4-0 et décroche son billet pour les demi-finales. Les Ukrainiens seront accompagnés par Liverpool qui s'est imposé au terme d'un match fou contre Dortmund. Les Red Devils s'imposent 4-3. Villarreal élimine le Spartak Prague 4-2. Et puis Nathalie, dans le duel 100% espagnol entre le FC Séville et l'Atlético Bilbao, il a fallu aller au-delà des 90 minutes de jeu.
Et Séville s'est incliné face à Bilbao 1-2. Tournoi olympique de Rio cet été, le tirage au sort a eu lieu.
L'équipe masculine du Brésil, hôte du tournoi, se frottera à l'Afrique du Sud, l'Irak et le Danemark au premier tour dans le groupe A selon le tirage effectué hier au stade du Maracana. La Seleção, finaliste malheureuse aux Jeux Olympiques 2012 et auquel seul l'or olympique manque au palmarès, est encore lestée d'interrogations. Le sélectionneur Dunga devra réaliser une bonne Copa América avec l'équipe A afin d'être maintenu à la tête de l'équipe olympique ou bien la participation de la superstar Neymar qui est encore incertaine. Le Mexique tenant du titre aura l'Allemagne comme principal adversaire dans le groupe C tandis que le groupe D comprend notamment l'Algérie, le Portugal et l'Argentine. La Suède, championne d'Europe espoir, bataillera dans le groupe B avec la Colombie, le Nigeria et le Japon. Et dans le tournoi féminin, les championnes du monde et championnes olympiques en titre, les Américaines, auront la France comme principal adversaire dans le groupe G, outre la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Quant à l'Allemagne, autre place forte traditionnelle du foot féminin, elle dispose d'un groupe F a priori plus abordable avec le Canada, l'Australie et le Zimbabwe.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Le nouveau départ prôné par le président béninois Patrice Talon, élu récemment, enregistre déjà des mécontents. Plusieurs dizaines de jeunes ont pris d'assaut jeudi matin la devanture du palais présidentiel pour contester la décision du premier conseil des ministres portant suspension des concours d'entrée à la fonction publique qualifiés de frauduleux et de honte nationale. Les détails sur ce mouvement d'humeur avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Nullement un chant d'honneur au drapeau, ce sont les lauréats des concours de recrutement dans la fonction publique et travaillant déjà au sein de l'administration béninoise qui manifestaient là leur mécontentement suite à la suspension de ce concours par le gouvernement. Ils ont assiégé sans en avoir reçu l'autorisation la déventue du palais présidentiel. En effet, organisés en 2015 par le régime de Yahi Boni, ces concours ont été criblés de tous les maux par les syndicalistes et autres acteurs de la société civile qui les ont tassés de frauduleux et ont exigé du régime de fin son annulation pure et simple. Mais rien n'a été fait. Par la voix de leur porte-parole, les lauréats à ces concours exigent donc du président Patrice Talon l'annulation de cette décision qui renvoie au chômage des centaines de personnes.
Cette décision nous semble arbitraire et populiste. Fonds de règlement de compte politique. Le Conseil des ministres précise que la décision de suspension se fonde sur les polémiques que ces concours ont suscitées. Il convient de rappeler que la législation béninoise prévoit une institution différente, un délai de l'exécutif, un délai, une procédure en la matière et des preuves juridiquement valables sans lesquelles aucune action ne peut être entreprise.
Pourtant, les syndicalistes persistent et signent ces concours qui décrédibilisent le Bénin aux yeux du monde entier doivent être annulés pour que des hommes et femmes sans compétences ne se retrouvent au sein de l'administration publique.
À la face du monde, l'on a pu montrer que dans ce pays, il y a des gens qui sont dotés du don d'ubiquité. Sinon, comment expliquer qu'un individu ait pu réussir à deux concours de recrutement qui se déroulent le même jour, dans deux salles de composition différentes et ce, à la même heure. C'est bien le comble du ridicule. Certains parmi ces candidats n'avaient même pas le diplôme requis pour composer et pourtant ils ont été déclarés admis.
En attendant donc, les réflexions vont bon train sur la légitimité ou non de cette décision du gouvernement que certains jeunes qualifient de terrible pour leur famille.
Vous cela juste pour un concours où il y a des quinzaines de milliers de chômeurs. On a recruté mille et quelques. On ne doit pas être victime des règlements de compte.
Il faut que le président revoie vraiment ce cas. Nous, on ne serait pas vraiment radiés.
Le processus nous concernant est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il y a en cours ? De quelle situation s'agit-il ?
Le gouvernement va certainement se prononcer dans les jours à venir pour apporter plus de clarifications. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Bénin sur Fraternité FM à Parakou.
La plateforme d'opposition du FROCAD appelle à la fin de la violence politique en République du Congo. L'opposante Claudine Mounari, à l'initiative d'une marche pacifique, est toujours assignée à résidence alors que c'est samedi en principe que Denis Sassou Nguesso doit prêter serment. Une délégation de l'opposition congolaise est actuellement en visite à Washington. Nicolas Pineau a rencontré maître Norbert Tricot, l'avocat du général Jean-Marie Mokoko, également assigné à résidence.
En ce qui concerne la situation générale de Mokoko, elle n'a pas changé depuis plus d'une semaine, à savoir qu'il est totalement encerclé à son domicile par les forces de police. On l'a privé de ses officiers de garde, donc, et il n'a ni le droit de sortir ni d'entrer, et personne ne peut entrer ni lui rendre visite. Il s'agit d'une sorte d'assignation à résidence forcée, mais qui n'est pas motivée légalement. De plus, il y a un véhicule de police équipé pour les interceptions de communications téléphoniques. Et le général Mokoko, et j'en ai témoin parce que quand j'essaye de le joindre, c'est difficile, est régulièrement victime aussi de coupures d'électricité. Donc il s'agit là bien d'une situation où on veut priver les leaders d'opposition de toute possibilité de s'exprimer et de contact avec l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la politique du huis clos.
Est-ce que vous allez introduire un recours auprès des juridictions africaines ?
Nous avons effectivement prévu d'engager des recours, mais pour nous, l'urgence, ce n'est pas l'encerclement du général, son atteinte à son droit d'expression, alors que la Constitution le prévoit. Mais c'est surtout la situation du peuple congolais et ses massacres. C'est-à-dire, M. Denis Sassou Nguesso fait comme M. Bachar al-Assad, le dictateur syrien. Il tue son propre peuple. Et donc, ce que souhaite le général Moukoko, et c'est aussi pour ça que nous sommes venus à Washington, c'est que nous mobilisions la communauté internationale pour que soit mis en place très rapidement un corridor humanitaire principalement dans le département du Poul, mais également aussi dans le reste du sud du pays, puisqu'il y a également des exactions à Pointe-Noire et dans la région de Pointe-Noire. Donc, nous souhaitons que, sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit organisé ce corridor humanitaire qui serait géré par le Comité international de la Croix-Rouge. Car il y a urgence à envoyer des médecins, des infirmiers, parce qu'il y a de nombreux blessés. Par ailleurs, nous formons le souhait que le Conseil de sécurité des Nations Unies, vous parliez de recours judiciaire, pour nous, le recours judiciaire le plus important, en vertu du statut de Rome fondateur de la Cour pénale internationale à La Haye, donc nous demandons qu'il y ait une saisine immédiate du bureau de la procureure de la Cour pénale internationale pour que soit immédiatement diligentée une enquête dans le Congo-Brazzaville sur tous les crimes qui ont débuté depuis le début de la semaine dernière.
Maître Norbert Tricot est l'avocat du général Jean-Marie Moukoko, candidat à la présidentielle du 20 mars dernier.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Malawi se bat pour mettre fin au vol de médicaments antipaludiques dans les hôpitaux publics. Ces vols coûtent plusieurs millions de dollars chaque année et les États-Unis, qui fournissent cette aide en médicaments, menacent d'arrêter si les autorités ne prennent pas la situation au sérieux. Lionel Gaïma nous en dit plus.
Le paludisme est la cause de 40% de la mortalité et du quart de visite médicale dans les hôpitaux du Malawi, selon le ministère de la Santé. Le gouvernement américain et le Fonds global de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria fournissent presque tout le stock des médicaments antipaludiques. En principe, ces médicaments devraient être distribués gratuitement. Mais une récente enquête du ministère de la Santé révèle que 30% des médicaments sont volés à Lilongwe, la capitale, et 70% disparaissent des centres de santé à travers le pays. Édouard Monste est chargé des affaires publiques à l'ambassade américaine au Malawi.
Instead of the government pharmacy providing that medication free of charge to the Malawian citizens that need it.
Dans les pharmacies publiques qui devaient donner ces médicaments gratuitement aux citoyens, on dit qu'il n'y a plus de médicaments, mais qu'ils peuvent aller au marché pour acheter le même médicament. C'est malheureusement criminel.
And that unfortunately is criminal.
Les États-Unis et le Fonds global ont donc lancé une campagne pour dénoncer les vols en appelant un numéro vert ou en envoyant un email. Edward Monster est le chargé de communication de l'ambassade américaine au Malawi.
And I'd like to point out that under the Make a Difference campaign.
Et je voudrais préciser que cette campagne nommée Faites la différence est financée par les États-Unis et des récompenses sont même promises aux personnes qui donnent des informations crédibles pouvant mener à l'inculpation des voleurs des médicaments. Les responsables de santé estiment pour leur part que les peines prévues par la loi sont trop légères, voire indulgentes. D'après Adrian Chikumbe, porte-parole du ministère malawite de la Santé, plusieurs personnes qui ont été prises la main dans le sac ont été libérées après avoir payé une toute petite amende. Si quelqu'un vole un médicament valant plusieurs millions, il paye une amende de 7 dollars. C'est presque rien. Nous sommes en train de travailler avec une commission parlementaire pour réviser la loi et avoir des peines beaucoup plus lourdes. La présidente de la commission de loi sur la santé est d'accord pour les peines plus sévères. Elle assure que sa commission est à un stade avancé de révision de la loi. Des infirmiers et autres personnels de santé sont pointés du doigt, mais les associations de défense des droits de l'homme parlent de corruption à un plus haut niveau. Pour Joyce Ngoma, présidente de l'Association nationale des infirmières du Malawi, C'est tout le système de santé qui est à refaire.
Les voleurs et les coupables, nous les connaissons. Ils ont été nommés auparavant et ce sont eux qui ont été promus. Et vous voulez vous attendre à quoi après ?
Cette fois-ci, les autorités malawites assurent qu'elles vont agir d'une main de fer et que personne ne sera épargné.
On peut comprendre cette manifestation de deux manières.
L'opposition zimbabwéenne était dans la rue jeudi à Harare à l'appel du Mouvement pour le changement démocratique, le MDC, scandant des slogans anti-Mugabe. Contrairement à ses habitudes, la police anti-émeute déployée en force n'est pas intervenue. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint David Zounmenou Dossou, chercheur à l'Institut des études stratégiques de Pretoria.
On peut comprendre cette manifestation de deux manières. La première, qui est la plus banale pour moi, c'est une tentative de réveil de l'opposition qui est restée dormante, déchirée par des conflits internes depuis les dernières élections présidentielles au Zimbabwe. Mais la deuxième, la plus importante, c'est le fait que la police n'ait pas réagi, n'ait pas fait montre de la violence à laquelle on est habitué au Zimbabwe. Et je pense qu'on peut mettre cela à l'actif de l'essoufflement du régime Mugabe.
Robert Mugabe, qui est âgé de 92 ans, a fait savoir qu'il compte diriger jusqu'à 100 ans et être candidat à la présidentielle de 2018.
Robert Mugabe a fait des déclarations politiques, mais du point de vue physique, il faut le dire, il n'a plus véritablement la même mise sur l'échiquier politique et même militaire du pays. Ceux qui continuent de le soutenir travaillent en sourdine pour leur propre élévation dans l'appareil dirigeant du parti au pouvoir. Mais le parti lui-même sait qu'il doit faire face à une révolution, à un changement, surtout que sur le circuit politique naissent de nouveaux mouvements, particulièrement le mouvement pour l'unité du peuple de Zimbabwe, créé par l'ancien vice-président Joyce Mujuru.
Au plan économique, comment comprendre la décision du gouvernement Mugabe de mobiliser des ressources pour compenser les fermiers blancs qui avaient été dépouillés de leurs terres?
Ce geste s'inscrit également dans la politique de revoir l'image de Mugabe, qui veut quitter la scène politique comme un bâtisseur, comme non seulement celui qui a offert l'indépendance aux Zimbabwéens, mais également celui qui a contribué à la réunification de son pays. Donc, si vous voulez, c'est une opération de charme que le président lance, mais le dommage causé à l'économie zimbabwéenne, le dommage causé aux milliers de fermiers, cette décision vient un peu tard pour compenser ce que les fermiers ont perdu et surtout ce que le pays a perdu en termes de cohésion sociale.
David Zounmenou Dossou, chercheur à l'Institut des études stratégiques de Pretoria en Afrique du Sud.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Michel Joseph. À la console, c'était Zuber Altayeb. Et avec vous à la présentation, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com pour l'info 24h sur 24. Très bon week-end à toutes et à tous.